Le bulletin du handicap. Ici Kevin Breton et voici les manchettes en ce lundi 25 janvier 2016. Le rappelé qui perturbe des célébrations à l'église du Très-Saint-Nom de Jésus. Transport adapté coupé pour une travailleuse des Laurentides. Des artistes avec une déficience intellectuelle peinent à trouver ou exposer leurs œuvres. Une ceinture qui vibre pour orienter les personnes malvoyantes. Et au hockey luge, équipe Canada perd en finale. Le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC, a perturbé dimanche après-midi, donc hier, les célébrations du 100e anniversaire de l'orgue de l'église du Très-Saint-Nom de Jésus, après avoir constaté qu'elle était toujours inaccessible aux personnes en fauteuil roulant, malgré des travaux de restauration de plusieurs millions de dollars. 8 personnes en fauteuil roulant venues assister à la cérémonie, mais ne pouvant accéder à l'église faute de rampe d'accès, se sont arrêtées au pied des marches de l'établissement. Les manifestants ont chanté en chœur et ont interpellé les spectateurs qui se rendaient au concert. « Nous avons droit à notre dignité », fait valoir Linda Gauthier, porte-parole du RAPLIC, aux côtés des manifestants. « C'est de la discrimination, c'est inacceptable de ne pas avoir accès à l'Église et à la culture. » De ne pas avoir accès à la culture, ça montre encore une fois que nous ne sommes pas considérés comme des citoyens à part entière, réenchérit Laurent Morissette, le vice-président du RAPLIC. Les organisateurs de l'événement leur ont présenté des excuses visiblement prises au dépourvu avant de rembourser les billets achetés au coût de 150 $ par les membres du RAPLIC. L'église a rouvert ses portes en Noël 2014 après une restauration ayant permis d'éliminer les moisissures et l'amiante, mais les travaux sont loin d'être terminés. Le curé de l'église, l'abbé Robert Allard, assure qu'elle sera éventuellement accessible à tous. Il reste encore tout le sous-sol à refaire pour accueillir davantage d'événements culturels. Il y a aussi dans les plans un ascenseur qui va permettre aux personnes handicapées d'entrer dans l'église au niveau de la rue puis d'y monter, assure le curé. Selon Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, les travaux sous-sol et l'ajout de l'ascenseur coûteraient entre 500 000 $ et 1 million. Selon le RAPLIC, la somme nécessaire à l'ajout d'une rampe ne serait pas si importante. L'organisme affirme avoir proposé son aide à la députée Carole Poirier afin de trouver le financement nécessaire à l'annonce des travaux majeurs ayant permis de restaurer l'église il y a quelques années. Nous étions prêts à faire une campagne de financement pour amasser assez d'argent pour rendre l'église accessible. Nous l'avons rappelé plusieurs fois à ce sujet, mais rien n'a été fait, déplore Mme Gauthier. Mme Poirier dit travailler avec le RAPLIC et l'archevêque pour l'accessibilité universelle, mais faute d'argent, elle doute de la possibilité d'ajouter un ascenseur. Quand je verrai l'argent pour un ascenseur, on en aura un. Pour l'instant, je vais continuer de parler d'une rampe, dit-elle. L'église a été fermée entre 2009 et 2014. Jusqu'à 2012, l'entretien minimal qu'on y faisait n'a pas permis de freiner sa détérioration. C'est un texte de Catherine Paquette pour Transcontinental. Une femme handicapée des Laurentides estime que le transport adapté qu'elle utilise est discriminatoire envers les travailleurs. Annie Cadieux de Saint-Jérôme a perdu l'usage de ses jambes il y a 3 ans, raison d'une hernie discale. Elle doit utiliser le transport adapté pour aller travailler à Montréal les lundis. Mais depuis le 1er janvier, le Conseil intermunicipal de transport Laurentide, CITL, a décidé que seuls les déplacements médicaux allaient être couverts. Après des plaintes d'étudiants et l'intervention du ministre des Transports, les étudiants ont également accès au service depuis jeudi dernier, mais les travailleurs ne peuvent toujours pas utiliser le transport adapté vers Montréal. « Depuis 2 semaines, je dois payer des gens pour aller travailler. Ça peut me coûter jusqu'à 130 $, alors je ne fais pas d'argent », a dit Mme Cadieux, qui n'a pas d'assurance et qui reçoit 840 $ par mois en prime d'invalidité. Annie Cadieux a fait des plaintes au CITL. Elle a contacté le ministre des Transports, le maire de Saint-Jérôme et le chef du Parti québécois, Pierre-Carl Pelado, sans succès. Même si elle est contente pour les étudiants qui ont recouvré le service, elle estime que les critères du CITL sont discriminatoires. La comptable de formation dit « Je suis outrée, je veux travailler, je veux gagner ma vie, mais on m'en empêche ». La porte-parole du CITL, Marie-Michèle Crevier, explique « Notre but avec ces coupes est de sonner l'alarme sur le manque de subventions ». Le président du CITL, Pierre Charron, a eu des conversations téléphoniques avec le ministre. « On a senti une ouverture et on espère que ça va permettre de faire changer les choses ». C'est un texte de Catherine Boisvert pour le Journal de Québec. Des artistes atteints de déficience intellectuelle peinent à trouver ou exposer leurs œuvres. Gilles Grégoire n'a pas beaucoup de mots pour s'exprimer, mais son visage et ses œuvres colorées suffisent à comprendre la passion qui l'habite lorsqu'il tient un pinceau. À 67 ans, ce peintre qui a plus de 25 ans de carrière derrière la cravate espère pouvoir percer un jour. Si aucune galerie n'a pour le moment accepté ses œuvres, sa plus grande fierté reste d'avoir été jumelé à Armand Vaillancourt lors de l'exposition d'Un œil différent qui présente des œuvres d'artistes avec ou non une déficience intellectuelle. Je ne suis pas contre les expositions dédiées aux personnes avec une déficience intellectuelle, mais je trouve que ça fait un peu ghetto, lance Stéphane Caillé, responsable de l'atelier d'art au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Montréal. J'aimerais sortir mes artistes de ça et les exposer dans des galeries traditionnelles. Mais le marché de l'art conventionnel ne semble pas prêt à accueillir ces créateurs, selon lui. Il dit « Quand je présente des œuvres, certaines galeries refusent par peur que le travail ne soit pas constant ou pas toujours bon. » Dans l'atelier de 800 pieds carrés situé au coin du boulevard Pie-Neuf et de la rue Ontario, Gilles Grégoire, Reine Durocher, Ansoniva Dolce et les autres laissent aller leur talent. Un travail assidu qu'ils pratiquent près de 5 jours par semaine jusqu'à accumuler plus de 400 œuvres dans le fond de la pièce. « Ce qu'on fait ici n'est pas récréatif », ajoute M. Caillé. « C'est plus une formation car ces artistes n'ont pas accès aux écoles traditionnelles qui demandent un minimum, un secondaire 5. Au-delà des barrières du handicap, ce serait surtout la complexité du milieu qui serait en cause selon plusieurs. » Le vice-président du conseil d'administration de l'écomusée Fier du Monde, Robert Axa, déclare « La plupart des artistes visuels vivent très mal. Ce n'est pas étonnant que ce soit encore plus difficile pour les personnes avec une déficience. » Pour leur part, les galeristes contactés ont affirmé recruter principalement des artistes ayant déjà une renommée ou possédant une certaine formation. C'était un texte de Camille Gaillard pour le Journal de Montréal. Ces dernières années, de nombreux dispositifs ont été créés pour faciliter le déplacement des personnes malvoyantes. La bague dotée de capteurs et de caméras, le téléphone intelligent qui filme l'environnement et dont les données sont traitées en temps réel et renvoyées à l'utilisateur sous forme de stimuli, la canne intelligente qui prévient l'utilisateur par vibration des obstacles situés au-dessus de la ceinture, ou plus récemment encore, le bracelet connecté qui repère les entraves à la circulation, entre autres applications. Un nouveau système poursuit cette même finalité, la ceinture vibrante de FieldSpace, pensée par des chercheurs de l'Institut de Science Cognitive à Unsbaruck, en Allemagne, indique la direction à suivre. Le projet de ceinture Valid Eye fonctionnait par radar laser et prévenait la personne qui présente une déficience visuelle par signal sonore et carte en braille. À l'inverse, VibroBelt de FieldSpace communique avec l'utilisateur par vibration. Couplé avec un Bluetooth avec sa propre application ou par autre système de navigation comme Google Maps, l'appareil oriente l'utilisateur en vibrant. Cette ceinture est équipée de 32 petits moteurs répartis tout autour de la ceinture pour pouvoir indiquer quand et comment tourner. S'il faut aller à droite, une petite vibration se fera ressentir à droite de l'abdomen et se déplacera en même temps que l'usager jusqu'à ce qu'il soit dans la bonne position et que le signal arrive au centre du ventre. L'avantage de cette ceinture vibrante est de laisser les mains libres et de les laisser s'adapter au mouvement de la personne. Le prototype final devrait être prêt au printemps 2016 et coûter environ 800 $. En attendant d'être pris en charge par les assurances santé, c'est un texte de Sophia Kadiri pour l'atelier. Et en terminant, simplement vous dire que samedi dernier, équipe Canada s'est inclinée en grande finale du défi mondial de hockey sur luge face aux États-Unis en prolongation 3-2 face aux Américains. Quand même, mention honorable aux joueurs qui ont su remonter un déficit de 2-0 pour forcer la période de prolongation. C'est tout pour le bulletin du handicap aujourd'hui. Je vous rappelle que les liens ainsi que les nouvelles et organismes mentionnés sont disponibles au vuzevoix.com et si vous êtes un organisme, vous pouvez nous envoyer vos nouvelles au canalem@vuzevoix.com. Merci beaucoup d'avoir été là et à demain!